Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Et voilà, donc au sommaire de cette émission, plein de chroniqueurs qui vont venir nous rejoindre. C'est bien, ils sont de plus en plus nombreux, ce qui est une bonne chose parce que ça permet d'élargir les champs des possibles, on peut dire, avec...
Les champs des subjectivités.
Voilà, exactement, et donc les coups de cœur de plus de monde. Donc, dans une première partie, un chroniqueur qu'on retrouve après quelques années de silence et qui va nous parler d'un roman français... Puis, le Toulousain Jean-Marc, lui, part direct aux États-Unis. Enfin, dans la deuxième partie, Jacques, faut quand même qu'on fasse quelque chose. Donc, tu parleras d'un roman qui se passe en Bretagne.
Exactement.
Donc, en fait, dans un endroit où il fait exactement le même temps qu'en ce moment ici. Ah, le temps en moins quand même, hein. Déjà, c'est bien. Et puis, nous retrouverons quelqu'un qu'on n'a pas entendu depuis quelques semaines, parce qu'il était lui aussi très occupé, de retour d'Angoulême, parce que c'est notre spécialiste de la bande dessinée. Nous retrouverons donc Frédéric Prieux pour sa chronique BD en toute dernière partie d'émission. Donc, on a la joie de retrouver Alain Bandry. Alain, bonsoir.
Bonsoir.
Ça fait très longtemps, je disais, que vous fûtes il y a quelques années parmi les premiers chroniqueurs avec nous deux dans l'émission de Noir. On va pas dire le nombre d'années, donc on est vraiment très très heureux de vous retrouver. Et donc ce soir, vous allez nous parler du dernier roman d'un Français, Olivier Bordassar, que nous avions connu à propos d'un livre qui nous avait tous beaucoup plu et qui s'appelait « La France tranquille ».
Oui, ce nouveau roman s'intitule « Dernier désir ». Allô ?
Oui, on vous entend très bien.
Oui, ce dernier roman s'appelle « Dernier désir ». Il est sorti chez Fayard et c'est pas vraiment un roman noir, hein, c'est autre chose. Effectivement, comme tu le rappelais, c'est « La France tranquille » qui était paru en 2011. Nous avait beaucoup plu à tous. C'était un grand roman noir au goût néo-polar des années 70. Et Olivier Bordassar jouait avec les codes du genre, les transgressait, les manipulait. Et tout ça dans une logorée célinienne qui nous avait beaucoup plu, jubilatoire. La narration était constamment bouleversée, anticipation, changement de point de vue, discours intérieur impétueux, dialogue alerte. Ici, avec Dernier désir, on change complètement de registre. On n'est plus dans le roman noir, mais dans le polar psychologique, voire fantastique. Alors un petit mot pour présenter l'intrigue. Je dirais pas grand-chose de l'intrigue parce que ce serait vraiment criminel.
C'est mignon pour parler d'un polar.
Eh oui, on peut pas parce que là, c'est
oui, c'est toujours pareil.
Alors, c'est l'histoire d'un couple, Jonathan et Nina Martin, et leur fils Romain, qui ont fui Paris et sa folie consumériste pour se libérer de cet obscur désir de l'objet, comme il dit, clin d'œil à Louise Buñuel, pour s'installer sur les bords du canal du Berry, au sud de Bourges. Alors on lit au début du roman une plaisante critique de la société de consolation qui est présentée à la manière d'un inventaire à la Prévert ou d'une chanson de Boris Vian et qui fait la liste des produits, objets achetés, des assiettes, saladiers, meubles, télévisions, etc. pour finir enfin sur, et je cite, et parfois même quelques plaquettes d'anxiolytiques.
Oui.
Voilà, on est dans le domaine de l'humour. Hein.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, la prochaine fois vous nous le chanterez.
Oui, c'est presque à chanter d'ailleurs.
Ouais.
Ils ont aménagé une maison d'éclusier et mènent une vie simple et paisible. Jusqu'au jour où un nouveau voisin se présente. Il est spirituel, raffiné, riche. Et il se nomme Vladimir Martin. Alors évidemment, l'homonymie des noms patronymiques, ça amuse les nouveaux voisins et les relations amicales s'amorcent. Le beau Vladimir se montre très généreux, il couvre tout le monde de cadeaux. Et en même temps, il s'installe. Il est omniprésent. Petit à petit, il phagocyte le couple. Il adopte la même coupe de cheveux que Jonathan, achète la même voiture, écoute la même musique, une collection complète de l'histoire du blues, décore sa maison à l'identique. Enfin bref, un manège qui inquiète Jonathan, mais n'ébranle absolument pas Nina, sa femme, qui est tombée sous le charme du voisin. comme s'il profitait d'une situation qui se délite dans le couple, Vladimir guette la moindre faille entre les époux pour s'y glisser et exacerber les conflits. J'en dirai pas plus, mais petit à petit, une inquiétude inexplicable, une angoisse indicible, un trouble étrange s'installe. Tout s'engage dans un crescendo cauchemardesque jusqu'à la chute. Alors, le premier indice qui saute aux yeux, c'est le choix des prénoms des personnages. Jonathan, Mina et Vladimir. Ce sont les mêmes prénoms que ceux des protagonistes de Dracula de Bram Stoker. Jonathan Harker, sa fiancée Mina, et Vlad, le vampire, comte de Dracula. D'ailleurs, le Vladimir en question, du dernier désir, est un être errant de la nuit. Je cite, « Pour l'insomniaque qu'il était, la nuit n'avait pas de limite. » On pourrait dire que le ton est donné, peu de personnages, un cadre isolé, rural, la canicule, l'orage qui gronde, tout est en place pour qu'un drame se produise.
La canicule dans le Berry, c'est rare. Hein, mais bon, ça arrive quand même.
Et oui, l'été, ça peut être épouvantable.
Continental.
Et c'est là qu'Olivier Bordassard capte notre attention, comme dans La France tranquille, justement. Grâce à son art de l'écriture. Une écriture, une voix très personnelle qui nous surprend sans cesse. Il est omniprésent, enfin, le narrateur est omniprésent dans les âmes des personnages. Il scrute au scalpel les têtes et les cœurs dans des portraits, des descriptions pointillistes, je dirais. Il y a même un chapitre qui raconte une partie de pêche avec Vladimir, le jeune Romain, qui est décrit du point de vue du poisson qui est pris à l'hameçon.
Oui.
Donc Olivier Bordassard joue sur différentes tonalités, de l'humour distancié à une gravité très très sombre. Il nous tient en haleine jusqu'au bout. Un livre que je conseille vraiment.
Oui, apparemment, ça donne envie. Puis de toute façon, même le petit pitch d'histoire que tu nous as raconté, c'est vrai que ça donne envie de sauter dessus et de ne pas s'arrêter. Surtout que vu les temps qui est prévu, on va pouvoir se consacrer à la lecture. Voilà, bah Alain, c'était très gentil. J'espère maintenant que la chronique va devenir
régulière.
Avec plaisir.
Eh bien, donc on va rappeler donc le titre du livre, s'il te plaît.
Dernier désir.
Nom de l'auteur.
Olivier Bordassard, et c'est paru chez Fayard Roman, et non pas Fayard Noir.
Hein. Eh oui, Fayard Noir est défunt pour le moment. J'espère qu'il renaîtra, on verra.
Oh, c'est un phénix, il était déjà rené une fois, pourquoi pas.
Oui,
une seconde.
Pourquoi pas. Merci beaucoup Alain, à bientôt, bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Jacques, un peu de musique.
On va passer un petit peu de musique, donc un titre qui pourrait très bien aller d'ailleurs au roman dont vient de parler Alain, mais en fait c'est de la musique un peu du rhythm and blues comme aime bien le jouer avec son groupe Jean-Marc, parce que Jean-Marc quand il chronique pas des polars et qu'il travaille pas au CNES à son boulot, il joue de la musique et donc son groupe il a un groupe de rhythm and blues qui aime bien ce genre de musique et le morceau s'appelle Born Under a Bad Sign et je pense que c'est quelque chose qui semble bien convenir au héros dont il nous parlera tout à l'heure.
Dans deux minutes.
J'ai pas dit l'auteur. En fait, c'est Paul Rodgers qui était l'ancien chanteur de Free et de Bad Company qui sortit un disque en hommage aux vieux titres de rhythm and blues qui lui ont toujours plu.
Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it weren't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Hard luck and trouble has been my only friend. I've been on my own ever since I was 10. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If one for bad luck, I tell you I wouldn't have no luck at all. Now listen. I can't read, I never learned how to write. My whole life has been just one big fight. Born under a bad sign, yeah. People, I've been down
begin to crawl. The one for bad luck, I tell you, I wouldn't have no luck at all.
Et voilà donc Paul Rodgers, Born Under a Bad Sign. Et ça nous permet d'enchaîner avec Jean-Marc.
Une autre rockstar. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Très bien, très bien.
Un deuxième chroniqueur de la soirée, c'est super. Donc, un coup de cœur, je crois, avec un Matthew Stoke, mais je ne suis pas sûre de prononcer bien son nom.
Mais je ne sais pas si je ferais mieux. Je n'ai pas la moindre idée de comment ça se prononce.
Donc, on va l'appeler Matt.
Voilà, Matt. Matthew Stoke, donc, quand même, pour un roman qui s'appelle Empty Mile, qui est publié à la Série Noire et traduit par quelqu'un qui doit être un peu connu de vos auditeurs, puisque c'est Antoine Chénas.
Oui, qui est lui-même donc écrivain et qui publie depuis quelques années à cette même Série Noire, pas très loin de chez nous. Il habite pas très loin de chez nous.
Voilà, c'est un voisin. Matthew Stoke, on l'avait rencontré en 2012, c'est pas rencontré, mais on avait rencontré son premier roman en 2012, et c'était un roman assez éprouvant, ça s'appelait La Belle Vie, et c'était une espèce de chronique d'un vide, c'était une horreur en fait, c'était très 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 difficile à lire, très très éprouvant dans le sens où on était face à des personnages qui n'avaient plus aucune humanité.
Ouais, il y avait un manque d'empathie quand même.
C'était sacrément glauque, hein.
Ah oui, particulièrement glauque en plus. Et donc là, j'avoue que j'ai ouvert le livre avec une certaine appréhension. Et puis c'est complètement différent. Alors, je vais pas vous dire que c'est une bluette ni que c'est rose, mais ça raconte quelque chose de totalement différent. Donc, on suit un dénommé Johnny Richardson qui avait quitté sa petite ville californienne il y a un certain temps suite à un événement qu'on va découvrir dans le cours du récit. Et puis 8 ans plus tard, il revient parce que il est rongé par le remords d'avoir abandonné son père, son frère, plus jeune, dont on va voir qui est une des causes de ce départ, et puis son amour de jeunesse. Donc le voilà qui revient avec un petit peu l'idée de réparer les torts causés, et puis avec beaucoup de remords donc. Et puis bon, donc il revient, il s'installe un petit peu dans cette petite ville, il revoit des anciens amis ou connaissances, et peu de temps après, son père lui parle d'un terrain en bordure de la ville qu'il vient d'acquérir, et juste après, il disparaît, définitivement, mais sans aucun avertissement. Et Johnny, lui, s'aperçoit qu'il est petit à petit la cible d'une vendetta sans pitié, et il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne voit pas le rapport avec la disparition de son père et il ne sait même pas qui c'est qui lui en veut. Voilà. Donc ça c'est... Et voilà. Après, à la suite de ça, bon, on va suivre cette histoire. Il va falloir qu'il comprenne ce qui lui arrive et puis qu'il sauve sa peau et celle des gens qui comptent pour lui, de ce qui reste.
C'est ça qui est assez fort d'ailleurs, c'est cette façon qu'il a de ne rien savoir et tout lui tombe un peu dessus de façon un peu... assez... pas vraiment étrange, mais... bizarre, disons, pour le moins.
Oui, c'est très bizarre. Et c'est alors ce roman là, déjà dans la narration, dans l'histoire, c'est extrêmement prenant parce que bah parce que c'est une espèce de nœud coulant qui se resserre autour de son cou sans qu'on voit qui c'est qui tire la corde plus ou moins, mais chaque fois qu'il essaye de faire quelque chose, de se débattre, de s'en sortir, ça empire. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'adversaire qu'il a en face doit avoir des moyens et des ressources qu'il ne soupçonne pas et qui font que il n'y a pas moyen qu'il s'en sorte. C'est terrifiant. C'est terrifiant pour ça. On avance, on se demande ce qui se passe et on ne voit pas bien comment il va se sortir de là. Donc ne serait-ce que sur ce plaisir de lecture, c'est très très fort, c'est très prenant. Mmh. Et après, la grosse différence avec le roman précédent, c'est que si le roman précédent était totalement dépourvu d'empathie, là, au contraire, il était déshumanisé. Celui-là, il prend aux tripes, quoi. Il prend aux tripes, il prend aux sentiments, avec des personnages extraordinaires, quand même. Il y a en particulier le frère, sans tout dévoiler, mais le frère de Johnny, suite à l'événement qui a causé son départ, est resté handicapé. Et ce frère, c'est un personnage extraordinaire dans ce livre que moi je comparerais par exemple au Lenny des Souris et des Hommes. Voilà.
Ah oui,
le final n'est pas dans le même style, mais c'est un peu ce genre de personnages qui sont absolument inoubliables. Lui et puis c'est celle qui sera son amoureuse, Rosie, c'est vraiment des personnages qu'on n'oublie pas de sitôt.
C'est impressionnant comme les auteurs américains, et je dirais pas de plus en plus, parce que ça a toujours été, ont toujours réinventé cette espèce de mythe de la personne qui revient, qui lui tombe des choses dessus. C'est depuis plus de 100 ans la littérature américaine et arrive complètement à se renouveler là-dessus.
Ouais, et là c'est vraiment une nouvelle. Alors je ne dirais pas plus, mais alors il se renouvelle en reprenant du vieux, parce que quand on découvre au bout d'un moment, vers la fin, le pourquoi de toute cette histoire. Ou disons, un des moteurs de toute cette histoire, on s'aperçoit que c'est encore un vieux mythe de l'histoire américaine. Mmh. Alors là, je vous laisse découvrir, mais c'est très très fort pour ça. Très très fort pour ça. Vraiment un très grand roman qui est très très émouvant, et où toutes les émotions, tout ce remords, toutes ces choses dans cette petite ville là où tout le monde se connaît sont vraiment mis à plat dans les pages, ça vous prend aux tripes et ça vous lâche plus jusqu'à la fin.
Il faut dire une autre différence avec le précédent, c'est que le précédent était un roman de ville, alors que celui-là est plutôt, enfin, c'est pas la campagne, mais enfin c'est un petit patelin de Californie milieu de tout, quoi, ou de rien. Californie.
Avec aussi cette capacité qu'ont les Américains à mettre en scène des gens ordinaires. C'est-à-dire, les romans français, souvent, quand même, on voit soit des flics, soit des voyous, soit des marginaux. Non, là, c'est des gens qui travaillent avec leurs mains, qui font un boulot manuel, qui leur va très bien, qui les rend heureux, mais ils ont plein d'emmerdes et qui leur tombent dessus, qui finalement vont faire que le livre est intéressant quand même. Mais cette capacité à mettre en scène, des ouvriers ou des petits artisans ou des gens comme ça qui sont pas racontés en France ou très très peu dans les romans.
C'est vrai que c'est un type. Je finis avec bonheur le dernier Daniel Woodrell, qui sous un mode beaucoup moins noir chez les éditions Autrement, reprend aussi des petites gens dans un village dans les années 1930 et on voit tout défiler. Tous ces personnages-là, et c'est vrai que ça nous manque un petit peu. Et justement, la personne précédente, Alain, nous parlait d'Olivier Bordassar. C'est quelqu'un qui arrive un petit peu à raconter les villes de province et les gens qu'on peut y croiser.
Voilà.
Donc il y a encore de l'espoir en France.
Oui, non, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais quand même...
Peu, oui.
Il y en a moins qu'aux États-Unis ou même de grands auteurs comme moi j'ai en tête Elmore Leonard par exemple, qui est souvent un des personnages principaux qui sont comme ça, des gens normaux, un charpentier, lui il se trouve qu'il est pas américain en fait, Matthew Stokoe, il est anglais, hein. Mais il est tout ce qu'il écrit se déroule aux États-Unis.
C'est
pour ça que je l'ai un peu rapidement catalogué auteur américain.
On va dire qu'il est anglo-saxon. Ça va satisfaire tout le monde. Bien, Jean-Marc, on arrive au terme de la première partie d'émission. Donc, on vous remercie beaucoup. Et puis, on rappellera le titre et les références en fin d'émission. Et puis, de toute façon, sur notre site Internet. Merci beaucoup, Jean-Marc. Bonsoir.
Bonne fin d'émission. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.